Gulliba TV News, nous ferons le serment de faire la télé en libéralisant la parole publique, mais aussi d'œuvrer au quotidien pour une information plurielle au service citoyen et de la démocratie. À monsieur, toutes nos excuses pour ce léger retard dû à un souci technique. Tout est rentré dans l'ordre. Et ce soir, nous recevons pour vous un jeune brillant, un jeune maire, le plus jeune maire à l'époque en 2009. Et au niveau du cercle de Yelimane, aujourd'hui il est en politique, mais il s'occupe aussi de sa petite entreprise, donc on dit en politique, et chef d'entreprise, passionné aussi des questions politiques, des questions géopolitiques. Donc notre invité est Birama Traoré. Birama, bonsoir.
Bonsoir, monsieur
Ataya. Merci de répondre à notre invitation.
C'est toujours un honneur de vous retrouver.
Oui, les téléspectateurs apprécient, surtout du R2I, apprécient beaucoup et vos interventions sur les différents sujets.
C'est un honneur quand même que ce soit le cas. De toute façon, vous êtes un journaliste. C'est difficile pour nous, en face de vous, de vanter votre mérite. Mais bon, voilà, c'est la voie de soi. Vous êtes un grand professionnaliste, un homme respectable et pris de justice. Donc c'est toujours un honneur d'être sur votre plateau.
C'est partagé, ça nous fait chaud au cœur. Oui, on va commencer, on rentre dans le vif du sujet, la transition et les inondations. Ces différentes inondations à Bamako, à Birama Traoré, vous, et qu'est-ce que ça vous fait quand vous voyez ces populations ou ces citoyens souvent désemparés, désorientés, qui se cherchent, là, le sauve que peut. Et qu'est-ce que ça vous fait?
D'abord, permettez-moi d'exprimer ma compassion à toutes les victimes. Vous savez, depuis des mois, toutes les semaines, des inondations font des victimes et font beaucoup des familles, des sans-abri. Donc c'est une réalité désormais qui est devenue le quotidien de Maliens. Donc je m'incline devant la mémoire de tous ces jeunes frères qui sont morts suite à des inondations. Et j'exprime ma compassion vis-à-vis de toutes ces familles qui sont dans une détresse inouïe. Nous sommes particulièrement dans une période un peu particulière compte tenu de l'hivernage, parce que les gens sont essentiellement occupés par les travaux champêtres. Et si à cela il faut ajouter à toute cette situation malheureusement délicate, notamment les inondations qui font des victimes, qui font des sans-abri, vous ne pouvez pas imaginer combien c'est une torture pour un chef de famille qui se retrouve du jour au lendemain sans-abri, et qui perd toute la sûreté en tant qu'humain, en tant que chef de famille. Et à cela aussi, il faut dire aussi qu'il perd aussi son intimité et sa dignité. C'est d'une grande souffrance. Mais c'est comme ça. C'est pourquoi souvent, c'est même difficile pour nous de dire Alhamdoulilah, quand on sait que nous avons beaucoup de nos compatriotes qui sont plus près de nous, de manière directe ou indirecte, qui sont touchés par cette catastrophe. Mais nous sommes des musulmans, nous devons avoir la foi, mais pour autant, c'est ce qui nous amène cette question est essentiellement politique, parce qu'au-delà des réalités desquelles nous vivons, il faut aussi avoir la conscience critique sur des questions éminemment politiques. Et quelle va être la réponse des autorités de la transition? Quelles sont les réponses apportées? Il nous arrive qu'on s'interroge. Nous avons des soucis par rapport à l'état social du pays. Nous avons des inquiétudes par rapport à l'horizon, compte tenu des réalités que nous vivons. Et du coup, également, on s'interroge. On se pose des questions en tant que citoyen, en tant qu'humain. C'est le propre de l'humain. Et parce que, à un moment donné, on doit quand même s'interroger, s'inscrire dans une perspective et donner un contenu à cette perspective. Aujourd'hui, la réalité est que toutes ces familles qui vivent dans cette situation malheureusement délicate ne savent pas quand est-ce que cette souffrance va prendre fin. Et je pense que c'est là où on attend beaucoup plus des autorités. C'est vrai, nous sommes dans un pays qui qu'il y a beaucoup de difficultés, dont les autorités elles-mêmes sont confrontées à beaucoup de défis. Mais pour autant, il faut savoir, il faut avoir la conscience qu'il y a des préoccupations qui sont d'une extrême gravité, dont il faut apporter la réponse tout de suite, claire. Mais on a le sentiment que cette réponse, malheureusement, elle n'est pas là.
La réponse n'est pas là. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire, hein? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que pour vous, le gouvernement, est-ce qu'il fait déjà quelque chose ou il peut mieux faire? Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour que dans les jours, dans les mois à venir, que Bamako puisse ressembler à une capitale digne de ce nom? C'est vrai que ce sont des catastrophes naturelles, mais on sait aussi que du fait des hommes, c'est aussi chacun jouer son rôle. C'est sûr qu'on aurait pu atteindre, c'est-à-dire l'ampleur de ces inondations.
Avant de répondre à votre question, vous avez parlé de Bamako. Je vous rappelle que moi, je suis entre Bamako et puis le milieu rural, notamment.
Yelemane,
le milieu local, là où il y a toute une partie de ma famille. Donc, de la manière dont il y a des difficultés à Bamako, il faut avoir la conscience également que dans les coins les plus reculés du pays, les citoyens sont confrontés au même type de difficultés. Parce que les conséquences liées à ces inondations ne sont pas que des conséquences qu'on connaît à Bamako. Pas typiquement que Bamako. Donc, c'est, si vous voulez bien, c'est dans toutes les parties du pays. Et voilà. Est-ce que l'État apporte des réponses à ces difficultés? Diriger quand même, c'est prévoir. Nous avons des services météorologiques. Nous savons tous que, en tout cas, compte tenu des éléments que normalement le gouvernement doit avoir à sa possession, qu'il fallait s'attendre quand même à des réalités de cette nature. Et dans cette optique, la question qu'il faut se poser est quelles ont été déjà les mesures prises pour que, en cas de cette situation, pour qu'on puisse se donner les moyens d'apporter les réponses qu'il s'y est. C'est là où on ne voit vraiment pas quelque chose de concret, même si nous sommes conscients que le gouvernement a toute la volonté. Mais sauf que d'un citoyen à un dirigeant, ce n'est pas que la volonté qui compte, c'est aussi les réponses dont on attend des dirigeants. Ces réponses-là, aujourd'hui, malheureusement, même si elles sont là, elles sont très timides. Donc ça veut dire que le gouvernement, je suis conscient qu'il y a des difficultés, mais il n'y a pas plus difficile, il n'y a pas plus cruel pour un chef d'État, un chef de famille qui se retrouve du jour au lendemain dans une école, si vous voulez bien, sans toilette, sans rien du tout, c'est difficile. Et à cela s'ajoutent également des situations qui peuvent créer des conditions hygiéniques et également la question des nourritures, la question des sûretés. Donc je pense que le gouvernement doit se surpasser et apporter des réponses jusqu'à ce que les populations aient le sentiment que le gouvernement réellement apporte les solutions. Mais nous sommes des citoyens, nous vivons et dans la communauté nationale, on discute avec beaucoup de gens, que ce soit avec nos proches ou avec d'autres personnes. En tout cas, la réalité est que les populations n'ont pas ce sentiment.
Ok, oui, parlons de l'école, de l'école, le report de la rentrée scolaire qui est annoncée pour le mois de novembre, le 4 novembre précisément. Est-ce que vous pensez qu'avec ces nouvelles inondations, est-ce que vous pensez que la date du 4 novembre est désormais réaliste? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Un bon citoyen, j'ai toujours envie de dire que nous allons croire aux déclarations officielles des autorités. Mais pour autant, il faut être réaliste. C'est quand même difficile parce que moi, comme tout bon Malien, quand j'ai entendu le ministre lire un communiqué, en tout cas qui est censé être officiellement le sien, j'ai eu de la double peine. De la peine pour l'homme face à l'impuissance à laquelle il fait face, face aux réalités du pouvoir, et face également à la solitude dans l'exercice du pouvoir. Ce jour-là, il était tout seul face à cette journaliste. Il cherchait un peu chez moi parce qu'il était conscient que l'annonce était d'une extrême gravité. Parce que jusqu'à quelques heures de cette annonce, les services du département en aiment l'État. Donc, dans ces éléments de communication, faisait croire, en tout cas, à la population malienne que la date
allait être maintenue.
Oui. Mais malheureusement, ce qui n'est pas le cas. La réalité, c'est qu'au-delà des raisons évoquées par le ministre, notamment les raisons de catastrophe naturelle, il y a aussi cette réalité. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre les partenaires sociaux et le ministre, notamment les syndicats. Et c'est vrai que les syndicats, en tout cas d'après les informations que nous avons, ça et là, qui ne sont pas encore officielles, dont ils font prendre avec beaucoup de pincettes et de réserves, c'est qu'ils ont quand même saisi le ministre par plusieurs fois avec un certain nombre de doléances, qui sont des doléances politiques qui méritent également des réponses politiques. Mais ce sont ces réponses politiques de la part du ministre, sinon du gouvernement, et qui n'ont pas été apportées. Et à ce moment-là, le gouvernement, sinon le ministre, savait très bien que la rentrée était difficile parce que les syndicats étaient une logique d'une grande assemblée générale le jour même de la rentrée. Et voilà, ça c'est une difficulté qui est là. Mais est-ce que cette difficulté, elle a été surmontée? Je ne pense pas, en tout cas jusqu'ici, il n'y a aucun élément qui indique que ces difficultés entre les partenaires sociaux et le département de l'éducation, notamment le gouvernement, a été surmontée. Alors que nous sommes déjà à mi-mois. Et ce qui me paraît beaucoup plus difficile, donc du coup je m'inscris comme tout bon citoyen dans le scepticisme, mais pour autant, comme je l'ai dit, il a clairement fait savoir que la date du 4 novembre serait la date de la rentrée. On aimerait bien croire.
Ok, on va suivre l'actualité, hein, cette actualité de près. Et l'actualité, c'est aussi le cri de cœur de ces commerçants au niveau les marchés à bétail, ces jeunes qui se retrouvent dans les garbales et puis aujourd'hui visiblement n'ont pas apprécié la mesure de suspension de ces marchés à bétail. Comment vous comprenez, c'est le cri de cœur du chef de famille, et qu'est-ce que vous comprenez, qu'est-ce qu'il faut faire?
Vous savez, il y a une réalité dont chaque pouvoir doit prendre en compte, doit avoir la conscience. Parce que c'est vrai, il faut diriger, il faut avoir la fermeté, il faut tenir contre, parce que pour construire aussi, il faut avoir la fermeté républicaine face à certaines situations. Mais pour autant, nous sommes dans un pays relativement, je ne dirais pas pauvre, mais qui manque beaucoup de moyens. Donc, le jeune, généralement, en manque de réponse, en manque de perspective, souvent, ces domaines se donnent beaucoup plus de moyens, soit à travers le commerce de bétail, soit dans l'élevage, soit souvent dans les marchés, un certain nombre de petits commerces qui sont installés ça et là. Est-ce que souvent il faut trouver des réponses à ces difficultés qui font, qui souvent deviennent une difficulté même dans la libre circulation? D'accord. Mais pour autant, en tant que responsable, à chaque fois qu'on prenne une décision, il faut pour autant inclure des mesures pour protéger le plus possible les économies endogènes qui sont créées avec toutes les peines du monde par des modestes citoyens. Oui. Mais malheureusement, c'est cette réalité qui n'est pas inclue dans les orientations politiques, dans les décisions politiques de nos autorités. C'est là où tout le monde se pose la question. Déjà, on attend beaucoup de l'État dont on n'a pas de réponse. Lorsqu'on se démène pour se débrouiller et finalement, un jour ou l'autre, on vient nous opposer certaines décisions qui vont tout casser, qui vont casser nos petites économies, qui vont casser notre élan. Moi, je pense qu'il est de la responsabilité du gouvernement de tout faire. Je ne dirais pas de prendre des décisions dont il pense qu'elles sont bonnes et pour tout le monde. Mais pour autant, il faut qu'ils aient la conscience qu'ils doivent prendre également des mesures pour protéger cette couche vulnérable de la société qui fait également vivre le pays. Parce que c'est ça aussi la réalité. C'est cette couche vulnérable qui est sous le soleil ardent tous les jours. C'est cette couche-là qui fait vivre le pays. Alors si jamais on n'inclut pas des mesures dans nos décisions qui puissent protéger les économies de cette couche, ça s'appelle tout simplement, en tout cas, à mon sens, de l'irresponsabilité.
Ok. Oui, parlons de cette actualité et cette sortie, on peut dire, du jeune parlementaire, Amadou Albert Maïga du CNT, qui s'est prononcé via un appel en direct dans une émission chez nos confrères de Clédou. Il s'est prononcé sur la marche de la transition. Est-ce que vous avez écouté qu'est-ce que vous pensez de ces réponses par rapport à la marche du pays?
Je n'ai pas eu la chance d'écouter cet audio, mais je crois avoir une idée de quelle était la teneur de cette conversation. Je crois que c'était une conversation téléphonique.
Non, c'était une émission. Il avait parti une émission appel.
Un appel téléphonique direct dans une
émission.
Émission. En tout cas, si je dois me référer à quelques éléments de réponse qui sont commentés ou publiés,
il y a juste un extrait.
Ce qui sous-entend désormais que même ceux qui sont les fervents soutiens de la transition sont conscients des limites dans la gestion des affaires courantes et qu'en perspective, ça manque d'orientation, ça manque de réponse et qu'à un moment donné, ils sont conscients à la fois parce qu'il y a cette histoire de demander tout le temps au peuple d'être résilient. Vous savez, mais d'ailleurs, moi, je ne comprends pas pourquoi on demande à quelqu'un d'être résilient. Être résilient, ça veut dire qu'il faut avoir et il faut accepter de souffrir. Pourquoi nous devons souffrir?
Mais on dit au peuple qu'il doit souffrir parce que le bonheur arrive après. C'est le discours officiel, c'est-à-dire que la résilience, le bonheur, après la souffrance.
Si vous voulez, mais d'ailleurs, si on doit évoquer ces questions-là, il faut aller au-delà de la dimension personnelle. Okay. Vous rappelez au soir du 19 août, après la suite du président Ibeka, on voyait la quinte-tête des colonels dans une déclaration qui disait qu'ils avaient pris les responsabilités en main. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec la marche du pays, qu'il fallait agir. Et ils ont agi. Et aujourd'hui, quand on n'est pas d'accord, on doit le faire savoir. Et pourquoi on nous demande d'être résilients? On veut des réponses. Ils n'étaient pas contents des réponses. C'est pourquoi ils ont dit qu'ils avaient pris les responsabilités. Aujourd'hui, également, les citoyens demandent des réponses qui ne sont pas là. Donc, on ne peut pas, face à cela, on ne peut pas nous demander de souffrir. Moi, je n'ai pas vocation à souffrir. J'ai vocation à jouir de tous mes droits,
d'aspirer au bonheur.
D'aspirer au bonheur, surtout de jouir de toutes les opportunités qui sont créées à travers les orientations politiques, des actions politiques et économiques du pays. Mais si ça n'est pas le cas et qu'on me demande de souffrir, ça n'a aucun sens. Je pense que désormais, parce que la réalité, c'est quoi? Même cette histoire, cette difficulté entre les partenaires sociaux et le ministre de l'Éducation, c'est qu'au départ, je crois qu'on avait demandé aux partenaires sociaux, notamment aux syndicats, d'accompagner la transition, qu'elle n'a pas pour vocation de rester longtemps et que chacun devait jouer sa partition. Et pour cela, les syndicats aussi ont pris sur eux qu'ils allaient tout faire pour essayer de, en tout cas, de mettre à plat les revendications qui pouvaient donner souvent naissance à des grèves. Mais cette transition des 18 mois, nous sommes désormais au-delà des 4 ans. Des élections ont été reportées sine die. Et désormais, le plan d'action gouvernementale est permis il y a longtemps. Il n'y a pas de nouveau plan, il n'y a pas de cap, il n'y a pas de perspective. Et pourquoi nous devons demander à tous ces citoyens de continuer à souffrir, sachant que nous ne savons pas quand est-ce que ça va prendre fin. Nous avons des devoirs, mais nous avons également des droits. Il faut qu'on nous laisse dans la logique d'État, c'est d'accepter que les gens expriment également leurs droits. Et je ne pense pas que je suis en face de ceux qui pensent que nous devons souffrir dans un pays. Okay. Personne n'a vocation à souffrir. Nous avons vocation à jouir.
D'accord, mais quand Amadou Meïga, Amadou Albert Meïga parle comme ça, est-ce que pour vous, il est en train de dire que rien ne va, changeons de cap, qu'est-ce qu'on peut retenir?
En quelque sorte, il fait son mea culpa. Et il croyait et il faisait de son mieux. Il pensait que, en tout cas, vous savez, le pouvoir, j'ai l'habitude d'écouter un grand journaliste sénégalais qui disait, Monsieur Attayer, entre l'homme qui aspire à gouverner et celui qui détient les réalités du pouvoir, vous n'avez pas la même personne. Vous n'avez pas le même homme. C'est vrai, quand on n'est pas confronté aux réalités du pouvoir, on pense que tout est facile. Et c'est ce qu'on nous vendait au début, que c'était juste une question de temps. D'ailleurs, vous vous souvenez, et lors même des campagnes du référendum, certains allaient jusqu'à faire croire aux Maliens qu'il fallait tout simplement adopter la nouvelle constitution pour que cela vienne avec la fin de tous les problèmes en tant que citoyen malien. Donc, désormais, ils n'y croient plus lui-même. Parce que 1 plus 1, ça donne 2. Dans la gestion d'un pays, on met en place ce qu'on appelle un cap. Il y a une perspective, on se donne le moyen de donner le contenu. Mais à l'absence de ce contenu, nous savons tous que l'horizon va s'assombrir. Et je pense que désormais, comme lui, comme beaucoup de gens, oui, ils ont conscience des réalités. Donc il faut changer de cap.
Pour vous, changer de cap, ça veut dire concrètement quoi? Est-ce qu'il faut donner un nouveau souffle à l'action du gouvernement? Est-ce qu'il faut sortir de la transition? Changer de cap, hein? Birama Traoré, ça veut dire quoi pour vous?
Nous sommes dans une période où chaque Malien, vous savez, moi, dans ma conception de la construction du pays, chaque citoyen compte. Chaque citoyenne compte. Alors, en tant qu'acteur politique, je pense que la meilleure manière d'apporter des réponses à des questions, à des attentes des citoyens, c'est de mettre en place une alternative qui garantit à tous les chacun, à tous les à citoyens, mais qui donne l'opportunité à tous les citoyens, donc, quand ils en ont envie, d'aller vers le juge électoral, qui est le peuple. Parce que si ça n'est pas le cas et qu'on essaie de faire croire qu'il y a des hommes providentiels qui peuvent apporter des réponses à toutes nos attentes, ce n'est que de la communication politicienne qui consiste à manipuler l'opinion et afin de pouvoir rester au pouvoir. Moi, je pense qu'il y a désormais le nouveau cap. En tout cas, et dans la logique républicaine, dans l'esprit de la démocratie, c'est de mettre en place une alternance. Et cette alternance qui permet à tous les citoyens d'aller solliciter la confiance, d'aller solliciter la légitimité populaire. C'est ce qui permet de mettre un cap sur place. Mais si nous devons rester autour de quelques hommes en pensant que c'est des hommes providentiels, moi je pense que c'est là où tout le problème va survivre. Et nous en sommes déjà malheureusement.
Oui, est-ce que pour vous, vous êtes en train de dire que le changement de cap, c'est interroger le peuple hein, qui l'arbitre, hein, c'est l'arbitre, c'est lui qui donne la légitimité. Mais ce même peuple-là, est-ce que quelque part, quand on écoute l'opinion publique, est-ce que vous n'avez pas l'impression que l'opinion publique soutient la dynamique et ne veut pas qu'on change de cap? Elle ne veut pas d'un changement de cap, je veux dire.
Non, non, non. Vous savez, dès le départ, je suis au regret de l'avoir constaté, comme beaucoup d'observateurs comme beaucoup d'acteurs politiques, on avait tué tout débat politique. Alors que le débat politique doit apporter la clarté, doit permettre aux citoyens de s'inscrire dans la perspective. Parce que c'est ce qui permet aux citoyens, à travers le débat politique, à travers les visions, les objectifs étalés, et ça et là, par des acteurs politiques, de s'inscrire dans une dynamique qui puisse garantir voilà, l'état social stable, une économie beaucoup plus fructueuse dans une démocratie. Mais malheureusement, on a fait en sorte que désormais, tout le débat était autour de on est pour ou contre la transition, alors que la loi malienne, elle est contre une transition. Donc, c'était une façon de tuer tout débat politique. Voilà les conséquences, on y est désormais. Donc, à défaut d'avoir ce débat politique, donc, il n'y a pas eu des idées qui puissent jaillir, qui puissent donner l'opportunité à des citoyens pour s'inscrire dans une perspective. Donc, on a fait croire que ceux qui ont pris le pouvoir ou ceux qui sont aux responsabilités sont les hommes dont il faut suivre aveuglément. Alors que ça, c'est faux. Ça, c'est absolument faux. C'était un fantasme qu'on a essayé de nourrir les citoyens avec. Je ne suis contre X ou Y, mais je sais que dans une logique républicaine, dans l'esprit démocratique, c'est qu'il faut donner la chance à tout un chacun d'aller vers le peuple. Mais faire croire que certains hommes sont providentiels et qu'ils peuvent apporter la réponse aux attentes des citoyens, c'est là où on se leurre. Donc nous en sommes, parce que finalement ça finit par s'effriter.
Okay.
Donc la réalité est que désormais, il faut accepter cette alternance qui permet. Et puis quand vous dites qu'on a le sentiment, oui, il y a beaucoup de gens. Vous savez, ceux qui ont conscience de cette réalité ne sont pas ceux qui sont sur les réseaux sociaux en vilipendant les uns et les autres nuit et jour. Donc, ceux qui ont conscience de cette réalité savent très bien que comment ça se fait. C'est à travers des outils que l'État, que les institutions de la République ont mis à la disposition de l'État, de tout citoyen. Il n'y a que comme cela on peut parvenir à une justice sociale, à un État beaucoup plus stable et à un cap beaucoup plus...
Oui. Quelle place peut-être pour les partis politiques dans ce changement de cap? Parce qu'on sait qu'une grande partie de la classe politique aujourd'hui est détenue, elle est en prison, elle n'a pas voix au chapitre, elle a peur de donner son opinion sur la marche de la nation. Quelle peut être sa marge de manœuvre?
Il y aura toujours de la classe politique. Il y aura toujours que des hommes politiques qui vont diriger ce pays. Est-ce que ceux et celles qui sont malheureusement soit exilés ou soit en prison, j'ai beaucoup de la peine pour eux, parce que dans une démocratie, on n'a pas vocation à aller en prison pour ses opinions ou pour avoir s'opposer aux orientations politiques du pays. En tout cas, même si ça n'est pas le cas, c'est le sentiment que beaucoup de nos compatriotes ont. Et au-delà de ces personnes-là ou de ces acteurs politiques qui sont en prison, il y aura toujours une émergence de cette classe politique à travers de jeunes talents, à travers des nouvelles figures. Et même ceux qui sont aux responsabilités aujourd'hui, c'est des militaires, peut-être des formations, mais la fonction, elle est éminemment politique. Okay. Il n'y a pas une fonction éminemment politique en fonction de chef de l'État, qu'une fonction de chef de l'État. Il n'y a pas une fonction éminemment politique, qu'une fonction de parlementaire. Donc, qu'ils soient militaires ou désormais, ils sont en train d'exercer l'exercice politique. Donc voilà, c'est pourquoi d'ailleurs des journalistes, des diplomates, des commerçants, donc chacun de ces segments peut se retrouver un jour chef de l'État. Mais pour y parvenir, ou bien pour y arriver, c'est le seul chemin, c'est à travers l'exercice politique. Donc, désormais, c'est vrai, c'est déplorable, parce que nous avons beaucoup de nos acteurs politiques qui sont en prison. Mais vous allez voir, quand les élections vont, quand nous allons être dans une perspective d'élection, vous allez voir que des nouvelles têtes vont émerger et qu'il y aura toujours une classe politique. Quoi que l'on puisse faire, c'est la classe politique.
Donc vous ne croyez pas à la mort programmée de la classe politique? Non.
Comment ça se fait? Puisque, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, l'esprit de la démocratie, EQ, pour être député, pour être président de la République, c'est qu'il faut, y arriver à travers les élections. Et qui parle d'élections parle de politique. Et les élections, ce sont les hommes politiques qui vont se présenter devant le peuple. Donc la classe politique, elle traverse de moments difficiles aujourd'hui, compte tenu du fait que nous sommes dans un régime transitoire, mais elle sera ressuscitée avec beaucoup plus de force et beaucoup plus de conviction. Elle apportera des réponses aux attentes des Maliens.
Oui, le discours du ministre de l'administration territoriale, le colonel Abdoulaye Meïka, à la tribune des Nations Unies. Qu'est-ce que vous, on a remarqué qu'il y a eu un accueil de quelques partisans à l'aéroport international Modibo Keïta, et qu'est-ce que vous avez retenu? Et puis après, le fait de l'accueillir, est-ce que pour vous, qu'est-ce que ça vous renseigne?
Vous savez, je suis aussi diplomate de formation.
Okay.
Je vais vous dire ça.
Okay.
Alors, d'acteur politique ou diplomate de formation, je pense que ce n'est pas le discours qu'il sied. Dans la perspective de développement et de la construction d'un pays. On a besoin de tout le monde. Et j'ai toujours dit sur votre plateau, l'efficience d'une diplomatie se mesure également à sa capacité de garder des relations, souvent avec des pays ou avec des régimes, très souvent même avec lesquels nous ne sommes pas du tout en phase.
Okay.
Parce qu'on discute avec celui dont on n'est pas en phase, avec lequel on a un certain nombre de différents sur des questions soit diplomatiques ou politiques.
Oui.
Alors, est-ce qu'on a besoin... Parce que désormais, il faut... un discours est important, mais sa teneur l'est beaucoup davantage. Le discours du ministre... et souvent, moi, je me pose la question, il parlait à qui? Il parlait plus aux décideurs du monde et il interpellait plus les décideurs du monde ou bien il parlait plus à la rue. Souvent, je me pose la question parce que dans certains discours, on part à la rue. Ça s'appelle du populisme. C'est en vogue maintenant. Hein? Et ça permet aux dirigeants politiques de tromper l'opinion, de manipuler l'opinion si vous voulez bien, de faire croire qu'on est dans une bonne dynamique, que le pays est dans une bonne marche. C'est quand on est en difficulté d'apporter des réponses que souvent on s'inscrit dans le populisme. En tout cas, moi, tout ce que je peux dire de ces discours, que je ne pense pas que ce sont les discours qui font les États.
Okay.
Hein? Moi, je pense que les discours, ils sont importants, parce que ça permet aux hommes politiques de communiquer, ça permet aux hommes politiques de dire ce qu'ils entendent faire, et de ce qu'ils croient fermement dans le cadre relationnel avec les États, avec les partenaires. Mais ce qui est beaucoup plus davantage, c'est la clarté et également la spontanéité avec lesquelles on s'adresse à ses partenaires, mais pas avec, si vous voulez bien, la virulence.
Ok. Et Birama Traoré, on est véritablement à la fin de l'émission, si vous avez un message, ça peut être un message pour les autorités ou un message pour ceux qui nous suivent à Yélimani, un peu dans la diaspora, c'est quoi le message à tous ces Maliens et Maliennes qui nous suivent ce soir?
Non, je n'ai pas de message particulier. C'est toujours que j'ai de la compassion pour nos compatriotes qui vivent dans des situations vraiment inouïes, compte tenu de l'état de la catastrophe naturelle. Et je compatis et nous sommes de cœur avec eux. Je pense que aussi nous, à notre modeste niveau, on essaie de faire du mieux que nous pouvons pour aider ceux qui sont vraiment dans le besoin. On n'a pas besoin d'étaler ça au grand public. Et si j'ai un deuxième message à passer, c'est surtout à M. Fomba. Vous savez, je suis Soninke, je suis de la région de Kai, de Yélimani. Être Soninke, ce n'est pas seulement le patronyme. Je suis Traoré, mais mon origine, c'est de la région de Ségou, mais depuis des générations et des générations, je suis Soninke. Être Soninke, c'est une identité, c'est une histoire, c'est une mémoire. Et c'est pas que le patronyme. Donc je suis profondément soninké. Je pense que sur le plan civilisationnel, nous n'avons pas envie ou à prendre des leçons de qui que ce soit. Je pense que lui, en tant que parlementaire, on a le sentiment à chaque fois, dans chacune de ses sorties, il draine derrière lui des petites polémiques. Il doit avoir de la hauteur, il doit avoir vraiment de la hauteur à la dimension de la responsabilité qui est la sienne désormais. Il doit savoir quoi dire, surtout de sur quoi quand il s'agit d'évoquer des sujets aussi sensibles.
D'attaquer à des communautés, par exemple.
À une communauté essentielle comme la communauté Soninké, à une communauté aussi importante. Toutes les communautés sont importantes. Je pense que c'est vrai, il a exprimé des profonds regrets, mais en tant que politique, en tant que dirigeant politique, nous devons avoir beaucoup plus la réflexion au-delà de la limite des moyens des citoyens lambda. On ne s'est comporté comme des citoyens lambda. On doit s'imposer, en tout cas, ce devoir de réserve, on doit s'imposer ce devoir de réflexion et avant de prendre la parole. Bon, c'est tout ce que j'ai à lui dire. Je n'ai pas à lui blâmer.
Vous lui demandez de prendre la hauteur.
Je lui demande tout simplement de prendre la hauteur. Cette manière populiste avec laquelle on s'adresse tout le temps ou l'attentat-mort sur les réseaux sociaux. On ne construit pas un pays dans l'attentat-mort ou dans le populisme. On construit un pays avec des actions concrètes. Dans cette perspective, chaque citoyen et chaque citoyenne compte. Mais on ne vient pas devant toute une nation avec une telle légèreté et s'adresser à une communauté aussi essentielle qu'importante qu'est la communauté soninké. Et d'ailleurs, j'en appelle aussi, il y avait des gens qui avaient appelé à porter plainte contre lui. Je ne suis pas la voix autorisée, mais je demande à travers les parents qui sont membres de l'association, c'est-à-dire la PS, à travers toutes les voies autorisées, que ça n'est pas la peine. Ça n'est pas la peine, on ne tire pas sur une ambulance.
Merci beaucoup, Birama Traoré. Je rappelle que vous êtes un politique, chef d'entreprise, c'était un plaisir, et puis diplomate aussi de formation, je vous rappelle.
C'est toujours un plaisir d'être sur votre plateau.
Oui, le plaisir est partagé, merci, et puis on aura besoin de vous pour d'autres émissions, pour le rendez-vous du dimanche.
Merci beaucoup,
merci pour votre fidélité.
C'est vrai, avec plaisir. Ouais.
Comment on dit merci à Soninké, la dernière fois on l'a cherché, il n'y avait personne sur le plateau qui nous aidait pour ça, c'est quoi?
Hanawari,
à toute la communauté soninké de Kai à Yélimani, en passant par la diaspora et vraiment la communauté Il y a Soniké, qui a une riche culture, une riche civilisation, une vieille civilisation. On se rappelle tous de l'Empire du Ouagadou. Merci, mesdames, messieurs. C'est la fin de cette émission que j'ai eu l'immense plaisir de présenter. Merci de votre fidélité toujours. Renouvelez le programme de Djouliba TV News. Vous pouvez retrouver cette émission demain à 10h et le samedi à midi à 00h. L'émission est aussi sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Au revoir et à jeudi prochain, toujours avec le même plaisir. Au revoir.